N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle à propos crier dans cet univers des humanisés, les murs de les portes n'ont plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous l'honner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui voulait vous en proposer? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres et barons. Fini le rigole, mes amours et les lourdes peines, alors enfin libérés, nous ferons tout brûler.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné. Bruit de tôle donc de ce jeudi 25 novembre sera, on commencera par une bonne nouvelle grecque, puis une annonce pour de suite, et l'émission sera consacrée totalement au contrôleur général des lieux d'enfermement par un enregistrement qui a été réalisé en juillet 2021 à Foix au festival Résistance. Alors je vous rappelle que l'émission est en direct le jeudi de 19h à 20h tous les 15 jours, qu'elle est rediffusée le vendredi de 17h à 18h tous les 15 jours. Et puis nous allons commencer, peut-être si on y arrive, mais en tout cas par un morceau de musique. Je pense que c'est parti.
M'empare et s'applique à donner le déclic. M'en fous du public, du rap et des clics. Des faux clashs du cirque, d'MC pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash. Que je fasse la potiche d'une musique potage. Qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage. Qu'au moins de petits flips, on stoppe l'abordage. On fait de la musique, même face à l'orage. Pour ta maison dite, t'es qu'une croix sur une page. Ici on fabrique un vaste édifice. Envié par ton crew à chacun de nos passages. Des fonds très bocages qui prennent en otage. Une culture malade qui n'est autre que plumage. Un mort d'enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages.
Jump.
coquille d'un art inutile qui au vent des villes me rend imbécile. J'ai pas d'évangile ni même le nombril rendant infantile ces phases indociles. Je continue ma tâche, il faut jusqu'au crash du blues cradabile. Dans le rap sur la tâche qui se coule les racines d'un présent sans âme en crash en sérine de Londres à Paname. Remballe tes infos où l'inculte se noie. Chez nous la vie se frappe un de vos tournois. Tout tout par sa croix, la haine les dégâts, la télé terrorise échange l'homme en proie. Je défoncerai vos caches qui prennent en otage une culture malade qui n'est que plumage. Un morne en robage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages.
Quiet and a bloated down rain. We're still right on the road and on the blue zip highway.
Donc on démarre par une bonne nouvelle.
Il n'y a pas de pression, vous pouvez applaudir. C'est pas encore terminé.
Attendez, c'est pas fini. Oh,
c'est pas fini la musique.
Ah, attendez s'il vous plaît. C'est pas fini encore.
Pourquoi c'est pas fini? Ils nous amusent ces musiciens. Voilà, là c'était terminé. Et donc la bonne nouvelle que je vous annonçais de Grèce, en fait ce sont les anarchistes Giorgio et Nikos qui passaient en procès, on a parlé, ils étaient accusés depuis 2016 d'avoir tué un dealer à Exarchia. Il y avait un témoin qui était à charge et qui donc les accusait. En fait, on s'est aperçu qu'en octobre ou peut-être avant, le témoin s'est récusé et a avoué avoir été intimidé et même acheté par la police grecque. C'était un véritable montage policier. Le procès était donc ajourné au 29 octobre, puis s'est déroulé. Et ce 25 novembre 2021, le résultat est là. Au terme de 3 séances de procès, les 3 juges et les 4 jurés ont tous déclaré Giorgos et Nikos innocents. Donc les compagnons de lutte ont été acquittés à l'unanimité. Cette victoire donc de 7-0 permet d'éliminer toute possibilité d'appel de la part du parquet. La victoire est donc définitive. Et le communiqué nous dit que ceux et celles qui baissent les bras ont déjà perdu et qu'il n'y a pas lieu de désespérer mais d'agir résolument pour dénoncer l'absurdité de la société autoritaire et le suicide collectif qu'est le capitalisme, car nous sommes le camp de la vie contre celui de la mort. On se réjouit de cette victoire juridique, puisque en effet il faut rappeler quand même qu'il risquait la prison à vie pour meurtre et que ça a été annulé. Et puis l'autre annonce, c'est pour tout de suite. Vous écoutez l'émission, mais vous pouvez peut-être déjà partir, car c'est en ce moment, il y a une manif contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Elle était prévue, un appel à partir de 18h30, il doit encore avoir du monde. C'est derrière le métro au Capitole, c'est au square de la mairie, derrière la mairie de Toulouse. Et il y aura aussi à l'intérieur de cet appel le cortège de Tout en Grève qui lui sera non mixte. Et voilà, c'est juste pour vous faire un petit clin d'œil, faire une annonce en début d'émission pour que vous alliez manifester pendant l'émission. Mais vous pourrez la réécouter hein, sur canalsud.net puisque l'émission est podcastée sur le site de la radio canalsud.net. Voilà, donc nous allons écouter cet enregistrement qui a été pris donc en juillet pendant le festival Résistance. Alors, c'était à l'issue de la projection du film Les Contrôleurs de l'Ombre, un film de Régine Abadia qui venait d'être fait en 2020. Et elle suivait Adeline Hazan à l'époque, qui était contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Actuellement, depuis 2021, cette contrôleuse, c'est Dominique Simoneau, une ex-journaliste. Donc là, dans le film, on la suit en train de observer et interroger dans les lieux et les conditions d'enfermement en France. Alors, elle passe des hôpitaux psychiatriques aux prisons, des contrôleurs qui veillent donc, qui veillent comme ils peuvent aux droits de celles et ceux qui sont privés de liberté. Donc, nous allons entendre le débat avec la salle et qui est fort intéressant où ils et elles expliquent leur travail, leur fonction, puis surtout comment ils sont accueillis dans ces lieux de privation.
Oui, bonjour. D'abord, c'est assez effroyable. C'est pour faire un témoignage parce que j'étais infirmier psy pendant 30 ans. Ça fait 15 ans que je ne suis plus. J'ai eu la chance visiblement de travailler dans un service où on avait les HO, les HDT, dans un service où rien ne fermait à clé, tout était ouvert, sauf qu'on était 3 ou 4 pour 20 malades, qu'on s'occupait d'eux, qu'après j'ai changé d'hôpital, j'ai vu dans un grand CHU ce qu'étaient des unités pour malades difficiles. Ça ne devrait pas exister, ça ne fait que de générer de la violence, c'est pas thérapeutique, ça n'a même rien de thérapeutique d'ailleurs, hein. En même temps, on faisait des unités pour les malades, en triant les malades, les jeunes à problème, les maniaco-dépressifs. Donc, on a commencé par faire du tri, et là, on ne s'est plus occupé de personne, en fait. Et j'ai vu cette violence, et je pense que depuis 15 ans, c'est devenu terrible. J'ai devenu, effectivement, cette tension qui montait. Mais de mes 20 ans d'expérience en petit service au sein d'un hôpital général où tout était ouvert, où on a eu des HO, des HDT, on a même eu des fois des gens qui venaient de prison, la cellule d'isolement dont vous parlez, je crois qu'on a dû la fermer à clé une fois. Même quand quelqu'un y était, la porte restait ouverte, et on restait avec les gens. Il faut être avec eux, on donnait très peu de médicaments, au point que des fois c'est eux qui réclamaient des médicaments. Hein. De mon expérience après, j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas partout comme ça, loin de là, mais pour dire qu'il y a d'autres pratiques, elles sont possibles, mais il faut être soignant, il faut avoir les moyens aussi. Hein. Et actuellement, moi j'ai commencé à le voir, le début de la destruction des moyens pour la psychiatrie, la fermeture des lits, qui avait plus de... les médecins, la formation du personnel. Moi j'étais un infirmier formé en psy, on a commencé à mettre des gens qui n'étaient plus formés, donc on a commencé à donner des médicaments, à abrutir les gens. Ça c'est... Tout ça pour dire que, effectivement, je suis d'accord, tout ça est intolérable.
Bonjour et merci pour ce film. Mais moi, je voudrais vous poser des questions sur le statut effectivement de votre travail, de ce que vous faites, parce que vous parlez dans le film, il est dit que c'est des recommandations, mais en même temps, vous constatez des infractions à la loi. Voilà. C'est pas le bon terme, hein, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'infractions. Alors, je voudrais savoir comment ça fonctionne, hein, vos visites, à qui c'est adressé, quels sont les effets, les conséquences, enfin, ce type de voilà. C'est quoi la fonction et pourquoi c'est des recommandations alors qu'on voit peut-être des infractions.
Alors, nos visites, elles sont organisées, décidées des lieux par la contrôleure générale. À l'issue d'une visite, nous écrivons un rapport sur l'établissement qu'on a visité. Ce rapport, le destinataire selon la loi de ce rapport est le ministre concerné par l'établissement ou les ministres. S'il s'agit par exemple d'un établissement pénitentiaire, on peut envoyer le rapport à la fois au ministre de la Justice, bien sûr, mais aussi au ministre de l'Éducation nationale si on estime que la prise en charge éducative est insuffisante ou inadaptée, ou au ministre de la Santé si la prise en charge sanitaire est mal assurée. Si on constate des atteintes graves aux droits des personnes et que ces atteintes, il faut y remédier rapidement, On fait des recommandations en urgence. Donc ces recommandations sont rédigées avant même que le rapport lui-même soit rédigé. Et elles sont envoyées directement au ministre qui répond. Et ensuite publiées au journal officiel avec en général une petite travail de communication dans la presse. C'est ce qui s'est passé cette semaine, lundi je crois, à propos de la prison de Seyss qui a été visitée début juillet, juin, je ne sais plus. Voilà. Et puis, alors vous parliez d'infraction. Ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Alors, ces recommandations en urgence, elles ont la vertu d'un travail de communication. Des recommandations en urgence qu'on a faites, qui ont été les plus célèbres, entre guillemets, c'est en 2012 sur la prison des Baumettes, qui a conduit, en plus, derrière, à du contentieux, ce qui a obligé l'État à faire des travaux dans la prison des Baumettes. Et puis celle sur l'hôpital que vous avez vu dans le film, là, le centre psychothérapie de l'Ain, le CPA, dans lequel on est allé en 2016. En sortant de cet établissement, on n'était pas très très bien. On était même, les personnes qui ont fait la mission étaient même plutôt pas bien. On a écrit ces recommandations en urgence qui ont créé un tollé. Alors d'abord localement, parce qu'il y a eu des licenciements, il y a eu une remise un petit peu à plat des fonctionnements. Donc le directeur a été licencié, un nouveau directeur est venu et a chamboulé totalement le fonctionnement de cet établissement qu'on a retrouvé 3 ans après dans l'état où vous le voyez dans le film. C'est-à-dire toutes les unités qui étaient fermées ont été ouvertes, les gens qui étaient attachés depuis des années, certains attachés depuis des années, on n'a jamais su depuis quand, parce que personne n'a pu dire depuis combien de temps certains patients étaient donc non seulement enfermés mais attachés. Toutes ces pratiques ont été changées. Et avec des soignants dans cet hôpital qui ont dit maintenant, quand je fais un geste vis-à-vis d'un patient, je me pose d'abord 2 questions. Est-ce que ce que je fais le soigne ? Est-ce que ce que je fais porte atteinte à ses droits ? Et c'est devenu la culture maintenant de cet établissement qui en 3 ans a radicalement changé. Et pour finir sur ce que vous disiez, quand on constate un délit, et ben comme tout agent public, on a obligation de dénoncer, de signaler ce délit au procureur, chargé à lui ensuite de faire ce que fait un procureur quand il y a un signalement. Ce que nous faisons, hélas, une fois par an.
Oui, je voudrais faire une première intervention. Il y a tellement de choses à dire. Il est bien ce film pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de lieu de privation de liberté. Vous voyez, la porte est ouverte, on voit le mur de la maison d'arrêt départementale à côté. Hein ? Nous, on a la porte ouverte, on va sortir tout à l'heure. Au milieu des années 90, il me semble me souvenir qu'une commission sénatoriale avait planché sur le sujet de cet espace de non-droit dans les prisons françaises et l'état catastrophique sanitaire, culturel, d'accès aux droits. Il ne doit pas y avoir beaucoup de prisonniers en France qui cette année ont voté. Ils doivent être en dessous des 30% aussi. Ils ont droit de vote, voyez. Et ce Clémenceau disait, quand vous voulez enterrer un problème, créez une commission. Et des commissions parlementaires, il y en a eu plusieurs. Il y a eu au début des années 2000, les élus départementaux à l'Assemblée nationale, les 2 députés, le sénateur de l'époque, aussi, qui viennent en visite, ce droit de visite de regard. Qu'est-ce qui en est sorti, à part les personnes dans les documents et la mise en pratique, que dalle. 6 ans après, d'autres élus viennent et font la même visite, font le même constat, alors que c'est une prison pas particulièrement sévère, même s'il y a eu plusieurs suicides dans cette maison d'arrêt, et que les conditions de travail aussi des surveillants de prison sont souvent très difficiles, catastrophiques, avec des grèves aussi pour signaler des choses, des gens qui pètent les plombs, comme on dit, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. De commission en commission, il me semble que ça fait plus de 30 ans qu'on constate les mêmes choses. Et il y a un nombre affolant de jeunes en prison qui devraient être pris en charge par d'autres services éducatifs, de soins, d'accompagnement. Quelles sont les activités ? Quelles sont les préparations à la réintégration dans la vie active pour en faire des citoyens pleins et entiers ? Et je pense qu'il y a un très fort problème politique, pas uniquement de financement, parce que ça viendrait, Mais c'est plus intéressant d'affoler la population et de faire de l'électoralisme en diffusant la peur plutôt que d'essayer de faire de vrais citoyens.
Si, juste historiquement, vous faisiez référence à un travail des années 90. En 2000, M. Canivet, qui était à l'époque président de la Cour de cassation, a rédigé un rapport préconisant qu'une institution indépendante du ministère de la Justice soit en charge du contrôle du fonctionnement des prisons. C'est une des origines du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il répond à cette nécessité.
Vous oubliez de dire que ce rapport des sénateurs, vous savez, cette bande de la
Je voudrais juste rajouter un mot suite à votre intervention. Vous avez raison de dire que la question de la privation de liberté est une question éminemment politique, mais avant tout, je pense qu'elle est à l'origine, c'est une question citoyenne. Et les politiques sont là par notre bonne grâce à nous. Donc, une prochaine élection présidentielle se profile. Je vous invite à jeter un œil sur le volet concernant les prisons dans les programmes des futurs candidats, et puis de vous faire votre opinion en fonction. On peut constater quand même que le cœur du programme des différents candidats sur la question de la privation de liberté consiste à créer de plus en plus de places. Et à chaque élection présidentielle, on promet de plus en plus de places afin de plus en plus enfermer. Donc, certes, nos politiques sont responsables, mais nous sommes responsables d'avoir élu ces politiques.
Et de créer des places de prison et de supprimer des lits d'hôpital.
Bonjour, merci pour ce film, ce documentaire. Moi, j'ai quelque chose qui m'a choqué, j'ai une question. On voit pas mal de prévenus qui n'ont pas droit au parloir, qui n'ont pas droit à appeler leur famille. Alors, j'ai une double question, c'est-à-dire, est-ce que c'est légal qu'un prisonnier ne puisse pas voir sa famille, mais est-ce que c'est légal aussi d'empêcher des parents, des filles, des proches de voir des gens sous prétexte qu'ils sont en prison? C'est parce que le droit à ce niveau-là, il est des deux côtés. Quand on est parent et qu'on a des enfants en prison, j'estime que c'est le droit minimum de pouvoir voir son enfant. Quoi. Voilà, c'est ma question. J'ai été assez choquée par ces impossibilités-là.
Non, c'est le moins spécialiste des deux qui va répondre à cette question. Effectivement, il n'y a pas d'infraction quand vous êtes prévenu pendant le temps de la procédure, jusqu'à temps que vous soyez condamné. Pour des raisons qui visent à préserver la procédure et à permettre à la justice de travailler convenablement, il peut y avoir une interdiction de téléphoner prononcée par le magistrat, une interdiction de visite. Voilà, la loi française est ainsi faite. Donc pour nous, il n'y a pas d'infraction par rapport à la législation. Maintenant, sur l'aspect moral, et j'entends le fait que des parents puissent mal vivre le fait d'être privés de visite avec leur enfant. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui permet de passer par-dessus.
Non, avec quand même une petite précision. Donc, quand les personnes sont prévenues, c'est le magistrat qui est en charge de l'affaire qui autorise les visites ou autorise les appels téléphoniques. Ceci dit, il y a aussi un délai, les personnes viennent juste de rentrer, le temps que la demande soit communiquée au magistrat, mais supposé qu'elle soit partie hier, cette demande, l'arrivée le 14 juillet sur le bureau du magistrat, qui est peut-être en vacances. Il y a aussi tout cet aspect des choses qu'il faut prendre en compte, qui fait que vu du côté de la famille du détenu, bien entendu, c'est épouvantable de passer un mois ou un mois et demi sans visite. Parfois, c'est aussi juste le fonctionnement d'un système, et c'est peut-être aussi tout notre travail de comprendre où sont les blocages et finalement pourquoi une personne a attendu un mois et demi, deux mois avant d'avoir son permis de visite. alors qu'au fond, rien dans l'affaire ne s'y opposait. Alors bien sûr, on ne traite pas les dossiers individuels, ce n'est pas notre travail, mais en revanche, on est toujours attentif dans les établissements qu'on visite à regarder comment fonctionnent les procédures pour comprendre s'il y a des blocages et éventuellement faire comprendre que dans un tribunal, ce serait bien qu'un magistrat prenne le relais d'un autre sur une affaire pour distribuer les permis de visite. Mais si c'est des affaires un petit peu compliquées, un magistrat peut pas, ne connaissant pas l'affaire, dire bien sûr, il peut téléphoner à sa mère, sa sœur, etc. Si c'est avec le risque que ces personnes, ce qui est rare, mais ça peut arriver, soient complices ou voilà, je ne sais quoi. Mais en tout cas, non, on peut pas y mettre, on peut pas s'en occuper directement, mais ça peut arriver. Ceci dit, c'est pas hyper fréquent. Parce que c'est pas hyper fréquent, parce que on n'a pas que des gros trafiquants dans les prisons. Pour l'essentiel, c'est quand même du menu fretin, malheureusement.
Je voulais poser une question par rapport à la réalisation, pardon. Je voulais savoir si c'était une commande faite par la commission ou si c'était une initiative de la réalisatrice.
Je crois que c'est une démarche un peu double, c'est-à-dire que la réalisatrice, en fait la commande c'est la chaîne parlementaire qui a financé et qui était intéressée de voir réaliser ce film, et puis après ça se fait un peu parce que les gens connaissent les gens. Je crois qu'Adeline Nazan avait envie qu'un film soit réalisé sur le travail qu'on faisait, et puis voilà, je crois qu'elle connaissait la réalisatrice, ou ça s'est fait comme ça.
Merci beaucoup. Deux questions. Vous avez évoqué tout à l'heure de qui dépense le service de contrôle de privation des libertés. Qui le compose exactement? Est-ce que ce sont des permanents? Apparemment, il y a des médecins, il y a plein de gens. Combien y a-t-il de personnes? Et dernière question, est-ce que les rapports qui sont divulgués aux différents ministères est-ce qu'on peut les lire? Est-ce que les journalistes y ont accès, etc.?
Alors, le CGLPL, c'est une autorité administrative indépendante. On n'est donc pas sous la coupe d'aucun ministère. Notre budget est voté par l'Assemblée et le Sénat. On est juridiquement, nous, rattachés en tant que salariés au service du Premier ministre. La contrôleure générale est nommée pour 6 ans, pour un mandat non renouvelable et non révocable, afin de garantir aussi son indépendance et son autonomie. Le CGLPL est composé d'une cinquantaine de personnes. Alors il y a d'une part les contrôleurs permanents, dont nous sommes, qui sont salariés du contrôle, et qui travaillons à temps plein pour le contrôle. On fait 2 semaines de mission, 2 semaines de rédaction des rapports, tous les mois. Il y a une quinzaine de contrôleurs permanents comme nous. Il y a une petite trentaine de contrôleurs qu'on appelle extérieurs, qui sont vacataires pour le contrôle, qui en mission ont le même statut que nous, c'est-à-dire qu'ils sont contrôleurs à part entière comme nous, mais ils ne sont pas salariés du contrôle, ils interviennent de façon ponctuelle pour les missions. Et puis au siège, on a ce qu'on appelle le pôle saisine. C'est un service composé de personnes qui est là pour recevoir les appels et les courriers des gens qui nous écrivent, que ce soit les familles, les avocats, les gens qui veulent nous saisir ou nous alerter sur un établissement. On reçoit à peu près 4000 courriers par an. C'est ce qui peut par exemple déclencher une mission. On peut décider d'aller quelque part, d'organiser une mission parce qu'on a plusieurs saisines sur un établissement. Mais on fait aussi des missions inopinées au hasard, c'est-à-dire que des établissements qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on va y retourner. Il y a très peu d'établissements qu'on n'a pas encore vus d'ailleurs. Et puis, il y avait un dernier volet à votre question. Alors, les rapports, effectivement, le CGLPL a pour vocation de rendre ses rapports publics. Donc, une fois que le rapport a été transmis au ministre, que le ministre a répondu, le rapport est rendu public, donc sur le site internet du CGLPL, cglpl.fr, vous avez tous nos rapports de visite qui sont accessibles. Alors, ils sont expurgés de certaines données qui concernent la sécurité des établissements, notamment pour les prisons. On va enlever certains détails qui sont uniquement relatifs à la sécurité. Mais vous avez accès à la totalité de nos rapports sur tous les établissements que nous visitons depuis que le contrôle existe. Ils sont tous accessibles en ligne. Donc, la vocation du contrôle est aussi là d'informer le citoyen de ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Et je voudrais juste rajouter, ça n'a aucun rapport avec votre question, mais j'y tiens. Ce que j'avais dit à l'extérieur, quand on a rencontré des gens sous la petite tente dehors, l'importance de voir, au sens propre du terme, un film, comme vous venez de le voir, ou qui est au CGLPL, un photographe qui nous accompagne dans l'émission et qui photographie pour donner à voir ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux-là, parce que personne ne voit ça. Personne ne voit. Alors, les gens qui travaillent le voient, mais ils sont dans une démarche professionnelle, ils ont aussi ils portent un regard qui est un regard de professionnel. Voilà. Donc c'est très particulier. L'immense majorité des gens ne voient absolument pas ce qui se passe dans ces endroits-là. Et je pense que ça participe aussi au maintien d'une certaine dynamique ou d'un certain manque de dynamisme par rapport à ce qui peut se passer ou ne pas se passer dans ces endroits-là. Donc je pense que la visibilité, le fait d'avoir vraiment un regard au sens propre sur, à l'intérieur de ces lieux-là qu'on ne peut pas voir, parce que c'est toujours derrière des murs, c'est complètement invisible pour vous. Vous pouvez habiter à côté d'une prison pendant 10 ans, vous ne saurez absolument rien de ce qui s'y passe, vous n'aurez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, de l'atmosphère, des odeurs, des couleurs, des bruits, de la saleté, enfin voilà. On passe tous complètement à côté, sauf ceux qui travaillent à l'intérieur. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir des images, d'avoir une connaissance, d'avoir une petite idée de l'atmosphère pour se figurer quels sont ces endroits-là. Donc, je pense qu'un film, c'est super important, et je pense que des images, c'est aussi super important pour comprendre, parce qu'on écrit des rapports, si on lit nos rapports, on comprend, mais je pense que l'image ajoute une dimension qui est quand même... qui ajoute une autre perception. Je vais insister là-dessus.
Je voudrais ajouter 2 points sur l'indépendance du contrôle. Jean-Christophe, vous avez dit qu'on relevait du Premier ministre. En réalité, enfin, pour être encore plus précis, le contrôleur général recrute ses collaborateurs et nous avons signé un contrat avec le contrôleur général, ce qui assure notre indépendance, en tout cas l'indépendance du contrôleur général. Le deuxième, c'est que même dans un établissement, que ce soit pénitentiaire ou psychiatrique, enfin, surtout pénitentiaire et psychiatrique, parce que des établissements un peu importants, à l'intérieur de l'établissement, des agents ne savent pas ce qui se passe dans le service d'à côté. C'est-à-dire que, grosso modo, les soignants voient les cellules, mais l'enseignant ne va jamais en détention. Il ne sait pas ce que vivent les détenus dans la détention. Ou la personne qui s'occupe du courrier, le vaguemestre, ne sait pas ce qui se passe en détention. Et de la même façon, les gens qui sont en détention ne savent pas ce qui se passe aux cuisines. Donc il y a un mode de fonctionnement qui est totalement morcelé, et chacun reste dans son coin sans trop vouloir savoir ce qui se passe à côté. Et même dans un hôpital psychiatrique, on a déjà vu des unités qui ne savent pas ce qui se passe dans l'unité à côté, puis qui ne veulent pas trop savoir ce qui s'y passe non plus, si la modalité de la prise en charge ne leur convient pas. Voilà, donc ça c'est aussi, nous, quand on va dans un établissement, on va partout et éventuellement on parle des uns aux autres, ce qui les surprend quelquefois. Voilà, nous voyons tout, mais même à l'intérieur d'un établissement, les gens n'ont pas non plus envie de voir.
Je voulais vous poser la question, les centres de rétention pour migrants, est-ce que vous y allez? Parce que quand même, là, c'est vraiment scandaleux ce qui s'y passe. Autre chose, au sujet du travail qui apparaît là dans le film comme une émancipation, je voudrais quand même souligner que les salaires sont des salaires de misère, qu'il y a une exploitation des prisonniers et qu'ils ne cotisent même pas pour leur retraite quand ils travaillent en prison, ce qui est quand même... les droits du travailleur en prison complètement spoliés. Autre chose, dire qu'on construit de plus en plus de... Ça va être à l'œuvre de prisons privées, parce que c'est un business, le prisonnier dans certains pays, qu'on ne peut pas faire... Enfin, je veux dire, on est dans un système qui est un système capitaliste. Et la prison, par exemple, dans les années 70, il y avait un questionnement sur la prison en tant que prison. C'était une remise en question totale. Là, aujourd'hui... ce questionnement est mis plus ou moins de côté, donc la prison, ça apparaît comme le disait au départ la dame, comme quelque chose qui semble tout à fait naturel. Il n'y a plus vraiment un questionnement comme à l'image de notre société. Là, on est tous muselés. Hein. La prison, elle est à l'extérieur et à l'intérieur en ce moment, donc il y a Donc ce qu'on est en train de vivre là, on pourrait se questionner, parce qu'il y a, une espèce d'effet de miroir, même si je n'irai pas jusqu'à dire, pour avoir visité des gens en prison, que la prison c'est la même chose que ce qui se passe dehors. C'est quand même une honte, enfin, qu'un être humain, enfin, je pense qu'il y a, un questionnement profond. Moi je voulais à se faire sur... Alors moi il y avait une chose qui m'avait étonnée en visitant... en étant dans la salle des visiteurs avant de rentrer en prison, c'est qu'il y avait que des pauvres. Donc je me suis dit, l'être humain, c'est l'être humain. Donc quelque part, c'est aussi un moyen de contrôle social. C'est une façon aussi de... Voilà, de il faut relire Foucault, quoi. La prison, c'est une fonction sociale évidente. Et je voulais la question que je me posais, est-ce que les gens sont prévenus avant que vous arriviez? Parce que peut-être que ça change la donne. Est-ce que vous avez le droit d'aller partout? Moi, je trouve que vous faites un boulot fantastique, mais quelque part, c'est... enfin, moi, je questionne la prison en tant que telle, en tant que système, le système carcéral. C'est quand même l'enfermement. Et voilà, ça me questionne. Est-ce qu'on peut... enfin, voilà, c'est cette question-là que je voudrais poser.
Alors oui, les centres de rétention administrative, on y va. De même que les locaux de rétention administrative, qui sont des mini-centres de rétention administrative dans certains commissariats, on y va. C'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être même les établissements qu'on a le plus visités. C'est-à-dire que chaque centre de rétention administrative a été visité au moins 4 fois depuis la création du contrôle il y a 12 ans. Ce qui s'y passe, bah oui, c'est pas du tout beau ce qui s'y passe. Alors, nos visites, oui, nos visites sont inopinées, notamment dans les centres de rétention administrative. Pendant le mandat d'Aline Nazan, les visites sont devenues annoncées. Alors, il y a deux écoles. Soit on a des visites annoncées, et c'est pour nous beaucoup plus simple de travailler sur place parce qu'on a plein de documents avant, donc on sait où on va, on peut viser tout de suite des choses. Soit les visites sont inopinées, ça a l'intérêt de surprendre... les personnes, ils ne vont pas aller nettoyer les cellules du QD juste avant notre passage. Ceci dit, quand les visites étaient annoncées, ils ne le faisaient pas non plus, parce qu'on peut tout, on s'en fiche. Donc voilà, après on peut discuter de l'intérêt d'une visite inopinée ou pas inopinée. Quand on fait une visite inopinée, et ben les gens qui avaient décidé, qui avaient des rendez-vous la semaine d'après, ben on ne les voit pas. Alors que si la visite est programmée, ils font en sorte d'être là. Chaque façon de faire a un intérêt. Il faut aussi savoir que quand on fait une visite programmée, s'il y a des modifications qui ont été apportées entre le moment où on a annoncé notre visite, qu'on annonçait 3 jours avant, enfin, ils n'avaient pas le temps de repeindre tous les murs. Mais s'il y avait des modifications, ce qui était rigolo, c'est que, évidemment, les détenus nous le disaient. Donc c'était encore plus intéressant de voir ce qu'un directeur d'établissement avait envie de cacher, alors que, bon, là, on le voit pas. Mais en même temps, je me souviens d'une visite inopinée où un détenu nous a dit « Ah ah, et vous attendez, regardez, ils ont changé de menu », alors que la visite était inopinée. Donc après, il y a aussi le fantasme, il faut faire la part des choses. Ça, c'est pour le caractère inopiné des visites. Et puis, il y avait une autre question. Je voulais juste aussi compléter la question d'avant. Nos rapports, donc, ils sont publiés. Ce que nous avons fait aussi, puisqu'on est notre mission est une mission de prévention des traitements inhumains et dégradants, on a écrit pas mal de rapports qui sont transversaux sur des questions transversales, qui sont aussi lisibles. Alors, pour monsieur, sur l'isolement, la contention, le respect des droits des patients, la prise en charge des mineurs en établissement psychiatrique, il y a 3 rapports là-dessus. On a fait un rapport récent sur la surpopulation, on a fait un rapport sur la situation particulière des femmes, et notamment la prise en charge de la santé des femmes, on a fait un rapport sur les mineurs, on a fait un rapport sur le personnel privateur ou gestionnaire de la privation de liberté. Donc c'est des sommes de capitalisation sur des observations qu'on a pu faire et qui, au bout de X années ou X visites qu'on a pu faire, voilà, nous ont permis d'avoir une doctrine. Et puis, l'an dernier, on a publié un recueil de recommandations minimales sur ce que doit être le fonctionnement ou la prise en charge d'une personne privée de liberté, quel que soit le motif et le lieu de sa privation de liberté. Taille, droit à la cour, des droits fondamentaux, aller dehors, téléphoner, bref, tout ce qu'on peut imaginer qu'on puisse, que puissent être les droits des personnes privées de liberté.
deux dernières questions, parce qu'il faut qu'ils aient le temps de manger avant de reprendre leur train. Donc,
ça, c'est pas une bonne excuse.
Alors, je vais justement enchaîner justement sur cette histoire de l'aspect juridique que vous préconisez dans vos recommandations. Est-ce que, à titre expérimental, existe une clinique juridique à l'intérieur d'un lieu, ou plusieurs peut-être, de privation de liberté ? Clinique juridique qui pourrait être un moyen de travail en commun, à la fois des personnels employés dans ces lieux de privation de liberté, et éventuellement même de formation juridique des personnes qui sont enfermées.
Alors, en prison, il y a un dispositif qui s'appelle le point d'accès au droit, d'ailleurs qui vaut pour tous les citoyens, mais qui est installé également en prison, c'est peut-être qui est organisé par le président du tribunal judiciaire du ressort, et qui permet à des détenus d'avoir des consultations sur tout problème juridique autre que celui de leur affaire, pour lequel ils ont en principe un avocat. Mais un détenu qui doit résilier son bail, qui doit contester l'affectation de son gamin au lycée ou ce que je sais, peut avoir un conseil juridique qui lui est fourni par un avocat gratuitement dans le cadre de ce qu'on appelle le point d'accès au droit. Ceci dit, c'est quand même assez rudimentaire. Hein, comme je n'oserais pas utiliser le terme de clinique et encore moins d'hôpital. Alors, un dispositif qui serait commun aux agents aux professionnels et aux personnes privées de liberté, non, je n'en vois pas. Mais ça pourrait être imaginé. Nous, ce qu'on préconise, notamment en établissement psychiatrique, c'est une formation des personnels aux droits des patients. Alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre avec quelque chose qui s'appelle le Comité national des présidents de CME, Commission nationale d'établissement, commission médicale d'établissement, voilà. Bref, les représentants des médecins des établissements psychiatriques souhaitent mettre en place une formation de l'ensemble des soignants aux droits des patients, avec l'idée que si on regarde le patient comme un sujet de droit, c'est autre chose que de le regarder comme un objet de soin. Ça change le regard du soignant sur le patient, ça change également le regard du patient sur lui-même. Je suis aussi un sujet de droit, et puisque je suis un sujet, je dois être actif et agissant. Et notamment, je peux être acteur de mon parcours de soins et non pas subir le traitement qu'on m'impose. Et maintenant, donc, la dynamique de beaucoup de médecins est de passer par la formation des soignants sur le droit des patients. Et ils ont contacté le contrôle général, qui a beaucoup travaillé cette question des droits des patients, pour participer à l'élaboration de cet enseignement. Donc on est sur la question. Alors, on est loin d'en être là avec la pénitentiaire, bien entendu, parce que la pénitentiaire fonctionne différemment. C'est une administration centralisée. On n'a pas affaire à aux 180 établissements psychiatriques qui sont autant d'entités différentes qu'on a en France. Du coup, nos rapports sont un peu différents. On est un recours pour les psychiatres, évidemment, on ne l'est pas vraiment pour la pénitentiaire. Ceci dit, l'accès au droit, enfin, la démarche de convaincre la personne détenue qu'elle est aussi un sujet de droit, alors à la fois responsable de ce qu'elle fait, mais aussi ayant des droits, c'est quand même une dynamique qui est extrêmement intéressante.
Bonjour, c'est moi, je m'exprime en langue des signes, donc ça va être traduit par l'interprète sur scène. J'ai trouvé votre film et tous les témoignages très très intéressants, merci. Et j'ai bien écouté les différentes missions que vous réalisiez. Et je me demandais si vous aviez également en fait, fait des observations sur les personnes en situation de handicap et l'accessibilité de tous ces lieux de privation de liberté, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, les sourds ou autres.
Bien sûr que pendant les contrôles, quand on se rend compte que certaines personnes privées de liberté sont sujettes à certains types de handicap, la prise en charge spécifique de ces handicaps-là est pour nous importante et vérifiée, contrôlée. Donc il y a effectivement un regard attentif qui est porté sur la, la façon de prendre en charge ces lieux de privation de liberté des différents problèmes qui sont posés, quoi. Donc ça fait partie de notre contrôle, bien entendu.
Et juste pour ajouter, pardon, et préciser un peu peut-être ma question, est-ce qu'il y a un rapport spécifique sur, par exemple, les personnes en situation de handicap en prison? Parce que dans les cas, du coup, vous tombez sur des gens en situation de handicap, vous le notifiez dans vos rapports, mais est-ce que vous avez écrit un rapport thématique sur cette problématique plus particulière des personnes en situation de handicap en prison?
Pas pour le moment. Mais je pense que comme on balaye au fil du temps, parce que le CGLPL, c'est une institution relativement jeune, elle a été créée en 2008, donc on n'est pas si vieux que ça. Mais je pense que ça finira forcément par venir, puisque ce sont des thèmes de travail récurrents. Donc il y aura certainement à un moment donné un rapport thématique sur la façon de prendre en charge les différents types de handicap dans les différents type d'établissement de privation de liberté.
Alors, une petite question. J'ai l'impression que votre approche politique, morale, éthique, etc., est légèrement différente de ceux qui définissent votre financement, que ce soit à l'Assemblée nationale, sur les questions d'enjeux politiques liés aux sécurités, à l'emprisonnement, etc. Est-ce qu'il y a des questionnements, des pressions sur les financements, et aussi si vous êtes amené à changer notamment de directrice, qui va prendre sa place, ou est-ce que ça peut aussi changer de personne et du coup aussi éventuellement d'éthique, d'approche, etc.
Alors, je vous ai vu arriver dès le début de votre question. Mais c'est bien que vous la posiez, parce que il faut le dire, non, on n'a pas de pression sur notre façon de travailler, sur ce qu'on met ou pas dans nos rapports, sur les endroits où on va ou pas, ce qu'on se permet de dire ou pas. On n'a pas de chantage non plus au financement. On a une dotation, c'est une enveloppe globale. La façon dont cette enveloppe-là est utilisée, il n'y a que la contrôleur général qui a son mot à dire. Je pense qu'il y a vraiment au contrôle une vraie liberté de travail, au sens où s'il y a pression, elle est en interne, dans le sens où on se met nous-mêmes la pression pour savoir si on va vraiment jusqu'au bout des attributions qui nous sont données. C'est-à-dire qu'il y a, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a discuté entre nous il n'y a pas si longtemps que ça, au cours d'une plénière. On fait une plénière tous les mois. Alors ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que c'est pour moi révélateur de l'état d'esprit des gens qui composent le CGLPL. On était là à discuter, est-ce que dans nos rapports on écrit personne détenue, ou est-ce qu'on écrit détenu? Il y avait des gens qui disaient, il vaut mieux écrire personne détenue parce que c'est plus respectueux, on dit que c'est une personne et qu'elle est détenue. Et puis d'autres qui disaient, ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça, donc maintenant on peut s'autoriser à dire détenue. On se la met nous-mêmes la pression, mais on a l'indépendance pour le faire, vraiment. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, d'une façon ou d'une autre, qu'on avait une sorte d'épée de Damoclès quelque part, même très loin. Mais vraiment pas. Donc la contrôleur générale est nommée pour un mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable. Donc non renouvelable, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de plaire, parce que de toute façon il n'y aura pas de suite. Et non révocable, ça veut dire que ça plaise ou que ça ne plaise pas, elle restera en poste jusqu'à la fin de son mandat. Donc elle est nommée directement par le président de la République. Alors effectivement, on peut discuter du choix du président de la République. Maintenant, une fois que la contrôleur générale est nommée, c'est parti pour 6 ans, et plus rien ne peut l'arrêter dans ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire, et comment elle va organiser le travail, et où on va aller, et qu'est-ce qu'on va en dire, et comment on va le dire. Donc vraiment, je pense que s'il y a bien une dimension où j'ai quelques certitudes, c'est l'indépendance de travail, de ton et de façon de faire les choses.
Et l'indépendance à l'intérieur de l'indépendance est tout aussi réelle. C'est vrai qu'à l'intérieur d'une mission dans l'équipe, je crois qu'on voit un moment dans le film, il y a des discussions qui sont âpres, quoi. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le dire? Est-ce qu'on va pas le dire? Si on le dit, ça a tel effet. Si on ne le dit pas, on a l'impression de ne pas sortir l'affaire. Mais parfois, enfin, on essaie de comprendre les conséquences. Il y a, par exemple, des pratiques qui sont faites dans certaines prisons qui sont à côté du règlement et que font les surveillants. Du genre aller, je sais pas quoi, avoir des réserves de cigarettes et les donner aux gens qui arrivent pour qu'ils puissent passer la nuit tranquillement. En contrepartie de quoi, la personne qui arrive s'engage à cantiner des cigarettes pour les rendre aux surveillants pour qu'il ait toujours sa cantine de cigarettes. Nous, on trouve que c'est une super idée. C'est évidemment totalement irrégulier. On se dit, si on l'écrit dans le rapport, le gars, il va passer un sale moment parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on peut discuter entre nous. On peut aussi discuter entre nous de l'utilisation publique qu'on va faire de certaines choses. Parce qu'on se dit, si cet établissement il a déjà du mal à vivre, si on fait des recommandations publiques, on le sonne encore plus, mais ils sont morts, les gars. Donc s'il y a une censure, c'est une auto-censure, mais ça se fait, après, j'allais dire, des heures de discussion. Les gens d'extrême gauche, c'est des galopins à côté de nous sur les heures de discussion qui peuvent passer, quoi. Et parce qu'on essaie d'avoir vraiment de mesurer les conséquences, de remplir notre mission, de pas jouer, enfin de pas se protéger. On n'a jamais cherché à se protéger les uns des autres. On essaie essentiellement d'être efficace à court, moyen et long terme, quoi. C'est notre éthique et il y a une liberté. On n'a pas tous les mêmes positionnements, mais chacun peut défendre sa position, quoi. Et ça, c'est une réalité. Enfin. Je pense que c'est quand même une institution qui est rare de ce point de vue-là, de sa fécondité de pensée qui est très clairement liée à son mode d'organisation, le fait qu'il n'y a aucune hiérarchie entre les contrôles, entre personne. Il y a la contrôleur général et sinon tout le monde peut donner son avis. Il n'y a pas de posture d'autorité, ni d'autorité morale ou intellectuelle. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur n'importe quel sujet. Et c'est aussi ce qui fait la richesse, parce qu'on n'a évidemment pas du tout tous le même point de vue. Je suis juste obligé de travailler, quoi. Non, on l'est vraiment. On l'est vraiment dans. Enfin, on ne traite pas le voisin de dernier des crétins si on n'est pas d'accord avec lui. Enfin, on fonctionne comme tout le monde, avec bienveillance. Mais non, on est totalement libre de faire et de dire ce qu'on veut.
Je pense aussi une dernière chose, c'est qu'on vient tous au contrôle d'univers différents. On a tous des parcours professionnels différents. C'est-à-dire il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des commissaires, il y a des gens du privé, des gens du public. Voilà, cet aspect pluridisciplinaire fait aussi la richesse du contrôle, mais fait aussi génère aussi une liberté de ton dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous suivi un parcours, on a été formé à quelque chose, et donc on va voir tous les choses avec un regard comme ça un petit peu formaté. Venant d'horizons différents, socialement, professionnellement, on a forcément des approches différentes, des points de vue différents sur une même problématique. Donc ça va générer des points de vue différents, donc ça va générer du débat, et donc ça va générer un affinement de la position ou de la décision qui sera prise par rapport à des problèmes qu'on rencontre. Donc je pense que c'est important aussi qu'on ne soit pas sorti du même moule pour étudier ce type de questions.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillonnant la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49-3, répression, couvre-feu, dépassé, ta cinquième république après un coup de vieux. Le ras-le-bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le non à la constitution. les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale.
Nettoyage au carcère, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache plus grand des racailles.
Nettoyage au carcère, gouvernement honteux, 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 est-ce que rien n'amène à la démission.
Nettoyage au carcère, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache plus grand des racailles.
Nettoyage au carcère, gouvernement illégitime depuis le non, la constitution européenne.
France schizophrène, nos valeurs hypocrites qui écœurent, stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur des politiques. Les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue la mésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au de ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières. Ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses. Islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. C'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances.
Nettoyage au carcère, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des racailles.
Nettoyage au carcère, n'est pas ton peuple pour la peau qui s'est battu contre l'occupation.
Nettoyage au carcère, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des racailles.
Nettoyage au carcère, islamophobie à tout va, mais une critique ni pas Israël.
Idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Verschap. La France a oublié pour les quelques bien que certains sont morts pour le droit des travailleurs, rappelle-le à Villepin. Contrat première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un fachot. Au premier tour, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF, pendant que les privatisations s'aiment.
Voilà, c'est Bruit de tôle qui se termine. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement la semaine prochaine, ce jeudi 2 décembre, entre 19h et 20h en direct. Le groupe L'Envolée animera une émission en hommage à Diane, qui a donc, elle, animé des émissions anticarcérales ici sur cette antenne à Canal Sud. Donc c'est jeudi prochain en direct de 19h à 20h. Pour Bruit de tôle, le rendez-vous c'est dans 15 jours. Si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire, soit par courrier postal ou carte postale, au 40 rue Alfred Duméril, Canal Sud, Bruit de tôle, 31400 Toulouse, ou par petit mail. Dans ce cas-là, c'est Bruit de tôle, bruit au pluriel, de tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Voilà, l'émission se termine.
La liberté, c'est toute.
Alors.
L'existence.
Très difficile de lancer le générique parce que le bouton est difficile.
On crée. Les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons. Elle a raison, alors disons, mon vieux copain, la vie.
Et pourtant,
c'est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus par ton berzel.
Bon, mais écoutez, Bruit de tôle qui termine tout sec,
partout.
Sans le générique qui pourtant tourne, mais ne veut pas sortir.
Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés. Quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire, partout on peut rire, chanter, partout on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Ouais.